Réchauffement climatique et capital public. Le second sujet essentiel sur lequel ces questions de règles d'or ont un impact important concerne le réchauffement climatique et plus généralement la possible détérioration du capital naturel au cours du XXIe siècle. Si l'on adopte une vision globale du capital national et mondial, il s'agit de toute évidence de la principale inquiétude à long terme. Le rapport Stern, publié en 2006, a frappé l'opinion en calculant que les dégâts susceptibles d'être causés à l'environnement d'ici à la fin du siècle pouvaient être chiffrés, selon certains scénarios, en dizaines de points de PIB mondial par an. Parmi les économistes, la controverse autour du rapport Stern a beaucoup tourné autour de la question du taux auquel il faudrait actualiser ces dégâts futurs. Pour le Britannique Nick Stern, il faudrait utiliser un taux d'actualisation relativement faible, de l'ordre du taux de croissance, 1%, 1,5% par an. Auquel cas, les dégâts futurs apparaissent déjà très élevés du point de vue des générations présentes. La conclusion du rapport est donc la nécessité d'une action forte et immédiate. Pour l'Américain William Nordhaus, il faudrait au contraire utiliser un taux d'actualisation plus proche du taux de rendement moyen du capital, 4%, 4,5% par an, auquel cas les catastrophes futures semblent beaucoup moins inquiétantes. Autrement dit, chacun accepte la même évaluation des dégâts futurs, eux-mêmes évidemment très incertains, mais en tire des conclusions très différentes. Pour Stern, la perte de bien-être global pour l'humanité est telle qu'il est justifié de dépenser dès maintenant l'équivalent d'au moins 5 points de PIB mondial chaque année pour tenter de limiter le réchauffement climatique futur. Pour Nordhaus, ce serait tout à fait déraisonnable car les générations futures seront plus riches et plus productives que nous. Elles trouveront bien une façon de s'en sortir, quitte à moins consommer, ce qui dans tous les cas sera bien moins coûteux pour le bien-être universel que de faire de tels efforts. Telle est en substance la conclusion de ces savants calculs. Quitte à choisir, les conclusions de Stern me paraissent plutôt plus raisonnables que celles de Nordhaus, qui témoignent d'un optimisme certes sympathique et fort opportunément tout à fait cohérent avec la stratégie américaine d'émissions carbonées sans aucune retenue, mais finalement assez peu convaincant. Il me semble cependant que ce débat relativement abstrait sur le taux d'actualisation passe assez largement à côté du débat central. En pratique, on entend de plus en plus souvent évoquer dans le débat public, notamment en Europe, mais également en Chine ou aux États-Unis, la nécessité de lancer une grande vague d'investissements visant à découvrir de nouvelles technologies non polluantes et des formes d'énergie renouvelables suffisamment abondantes pour se passer d'hydrocarbures. Ce débat sur la relance écologique est particulièrement présent sur la scène européenne car on y voit une façon possible de sortir du marasme économique actuel. Cette stratégie est d'autant plus tentante que le taux d'intérêt auquel nombre d'États empruntent est actuellement extrêmement faible. Si les investisseurs privés ne savent pas comment dépenser et investir, alors pourquoi la puissance publique devrait-elle se priver d'investir pour l'avenir et d'éviter ainsi une dégradation probable du capital naturel? Il s'agit de l'un des principaux débats de l'avenir. Plutôt que de s'inquiéter de la dette publique, qui est très inférieure au patrimoine privé et qui, dans le fond, peut être supprimée assez facilement, il serait plus urgent de se soucier d'augmenter notre capital éducatif et d'éviter que notre capital naturel ne se dégrade. Il s'agit d'une question autrement plus sérieuse et ardue, car il ne suffit pas d'un trait de plume ou d'un impôt sur le capital, ce qui revient au même, pour faire disparaître l'effet de serre. En pratique, l'interrogation centrale est la suivante. Supposons que Stern ait approximativement raison et qu'il soit justifié de dépenser chaque année l'équivalent de 5% du PIB mondial pour éviter la catastrophe. Est-on bien sûr que l'on sache quels investissements réaliser et comment les organiser ? S'il s'agit d'investissements publics, il est important de comprendre qu'il s'agit de masses considérables, beaucoup plus par exemple que tous les investissements publics actuellement réalisés dans les pays riches. S'il s'agit d'investissements privés, il faut préciser les modalités de financement public et la nature des droits de propriété sur les technologies et brevets qui en résulteront. Faut-il par ailleurs tout miser sur la recherche de pointe afin de faire des progrès rapides sur les énergies renouvelables, ou bien faut-il nous imposer immédiatement de très fortes réductions de consommation d'hydrocarbures? Sans doute est-il sage d'avoir recours à une stratégie équilibrée reposant sur tous les outils disponibles, y compris bien sûr les outils tels que la taxe carbone qui permet de faire payer plus cher les différentes consommations énergétiques en fonction de leur émission en CO2 et non en fonction des aléas budgétaires, ce qui a généralement été la logique des taxes sur l'essence. Tout laisse cependant à penser que ce signal prix a moins d'effet sur la réduction des émissions que les approches en termes d'investissement public et de normes de construction, isolation thermique, etc. Mais au-delà de ce constat de bon sens, force est de souligner que personne ne connaît à ce jour les réponses qui seront apportées à ces défis et le rôle exact que jouera la puissance publique pour éviter cette possible dégradation du capital naturel au XXIe siècle. Transparence économique et contrôle démocratique du capital. De façon plus générale, il me semble important d'insister en conclusion sur le fait que l'un des grands enjeux de l'avenir est sans nul doute le développement de nouvelles formes de propriété et de contrôle démocratique du capital. La frontière entre capital public et capital privé est loin d'être aussi claire que ce que l'on s'est parfois pris à l'imaginer après la chute du mur. Comme nous l'avons noté, il existe d'ores et déjà de nombreux secteurs d'activité dans l'éducation, la santé, la culture, les médias, où les formes dominantes d'organisation et de propriété n'ont pas grand-chose à voir avec les deux paradigmes polaires du capital purement privé, avec le modèle de la société par action, entièrement aux mains de ses actionnaires, ou du capital purement public, avec une logique également top-down, où l'administration déciderait souverainement de l'investissement à réaliser. Il existe évidemment de nombreux modes d'organisation intermédiaires permettant d'utiliser de façon utile les informations et les compétences de chacun. Le marché et le vote ne sont que deux façons polaires d'organiser les décisions collectives. De nouvelles formes de participation et de gouvernance sont à inventer. Le point essentiel est que ces différentes formes de contrôle démocratique du capital dépendent pour une large part du degré d'information économique dont disposeront les uns et les autres. La transparence économique et financière n'est pas simplement un enjeu fiscal. Elle est également, et peut-être surtout, un enjeu de gouvernance démocratique et de participation aux décisions. De ce point de vue, l'enjeu n'est pas tant la transparence financière sur les patrimoines et les revenus au niveau individuel, qui n'a pas véritablement d'intérêt en soi, sauf peut-être dans des circonstances très particulières comme pour les responsables politiques, ou dans un contexte où le manque de confiance ne peut être corrigé autrement. En règle générale, l'enjeu le plus important pour l'action collective concerne la publication de comptes détaillés des sociétés privées, comme d'ailleurs des administrations publiques, qui, sous leur forme publique actuelle, sont tout à fait insuffisants pour permettre aux salariés ou aux simples citoyens de se faire une opinion sur les choix en cours et a fortiori pour intervenir dans les décisions. Par exemple, pour prendre un cas pratique qui nous renvoie au tout début de cet ouvrage, les comptes publiés par la société Lonmin, qui possède la mine géante de platine de Marikana, où ont été tués par balle 34 grévistes en août 2012, ne permettent même pas de calculer précisément le partage des richesses produites entre profits et salaires. Il s'agit d'ailleurs d'une caractéristique générale des comptes publiés par les sociétés de par le monde. Les données sont regroupées dans des catégories statistiques très larges, permettant d'en dire le moins possible sur les enjeux réels, ou bien de réserver les véritables informations aux investisseurs. Cela vient notamment du fait que les salaires sont généralement regroupés dans une même ligne, avec les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les achats faits à d'autres entreprises, qui elles-mêmes rémunèrent à la fois le travail et le capital. La conséquence est que les comptes publiés ne permettent ni de calculer le partage profit-salaire, ni d'examiner les éventuels abus concernant les consommations intermédiaires, qui peuvent être une façon de fournir un complément important de niveau de vie à des cadres dirigeants ou à des actionnaires. Il est aisé ensuite de dire que les salariés et leurs représentants ne sont pas suffisamment au fait des réalités économiques de l'entreprise. Sans réelle transparence comptable et financière, sans information partagée, il ne peut exister de démocratie économique. À l'inverse, sans droit réel d'intervention dans les décisions, comme des droits de vote pour les salariés dans les conseils d'administration, la transparence ne sert pas à grand-chose. L'information doit nourrir des institutions fiscales et démocratiques. Elle n'est pas un but en soi. Pour que la démocratie parvienne un jour à reprendre le contrôle du capitalisme, il faut d'abord partir du principe que les formes concrètes de la démocratie et du capital sont encore et toujours à réinventer.